Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Plusieurs voix, depuis quelque temps, se font entendre pour nous mettre en garde sur les dangers potentiels et même réels de l'intelligence artificielle. Par exemple, vous avez un de ceux qu'on considère comme probablement une des sommités dans le domaine, Jeffrey Hinton, qui a quitté Google. Il a dit dans quelques entrevues qu'il démissionnait, entre autres, pour retrouver la liberté de parole. Et pour dire, j'ai la responsabilité, parce que j'ai participé activement au développement de l'intelligence artificielle, de mettre en garde les gens sur les dangers. Quand on regarde ce qui s'est passé en 5 ans, puis ce qui s'en vient pour les prochaines années, il y a de quoi s'inquiéter. Et ça dépasse largement là ce qu'on voit comme exemple, c'est-à-dire de recréer de la musique, de recréer des lieux, des scènes, des images. Et un autre expert qui a été un des premiers aussi à se faire entendre avec d'autres, est avec nous ce matin, Joshua Benjo. Monsieur Benjo, bonjour.
Bonjour.
D'abord, quand vous voyez Monsieur Hinton, que vous connaissez, là, quitter Google pour dire « je veux mettre les gens en garde sur ce qui s'en vient », comment vous interprétez son geste, sa décision?
Jeff Hinton, c'est quelqu'un de très loyal. En tant qu'employé Google, il voulait pas dire des choses qui pourraient nuire à la compagnie. Mais à part ça, il est quand même clair qu'il a trouvé que Google a agi de manière responsable jusqu'à présent dans ce dossier.
Mais le message que les gens doivent retenir avec cette sortie, avec ce que vous dites, la lettre que vous avez signée, ce serait quoi pour les gens qui écoutent ce matin? C'est quoi le message?
Mais le message le plus important, c'est qu'il faut qu'on accélère l'encadrement de l'intelligence artificielle, la réglementation, les lois, les accords internationaux, puis ça prend du temps, toutes ces choses-là. Et puis, on peut pas attendre un autre 10 ans. Il y a des utilisations extrêmement positives de l'IA, mais ça peut aussi être mal utilisé. Et donc, il faut absolument qu'on sorte du Far West dans lequel on est aujourd'hui.
Quand vous dites que ça peut être mal utilisé, quels sont les exemples que vous pouvez nous donner?
Avec l'arrivée de ChatGPT, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que ces systèmes-là peuvent se faire passer pour des personnes. Parce qu'on peut interagir par texte, là, éventuellement, même en parlant, là, parce que c'est rendu, la technologie est rendue là, et avoir l'impression qu'on parle à un autre être humain, même à une personne qu'on connaît, là, si cette personne a une trace sur Internet. Donc, ça pourrait être utilisé pour mal informer, pour influencer les gens au niveau politique, pour des cyberattaques. Enfin bon, il y a beaucoup de dangers comme ça dont on doit se préoccuper.
Je voyais par exemple des images d'événements qui n'ont jamais eu lieu, là, qui ont été créés pour montrer par exemple des affrontements. Ça peut, ce qu'on appelle les fameuses fausses nouvelles, là, on peut en générer beaucoup, ouais, avec ça.
Exactement. Avant, les gens faisaient ça déjà, mais c'était à la mitaine. Donc là, ça peut se faire de manière, comment on pourrait dire, industrielle. Et de manière même personnalisée, là. Vous pouvez imaginer qu'il y aurait une image qui est générée pour vous convaincre, vous, là. Une image et un texte et une interaction. Donc ça, c'est quand même inquiétant.
Qui sont les joueurs qui poussent pour que ça demeure le Far West?
Ben, c'est un peu normal que les entreprises, surtout celles qui ont investi beaucoup là-dedans, craignent un encadrement qui les ralentisse, qui leur mette des bâtons dans les roues. C'est comme ça dans tous les domaines d'activité. Mais on a développé de la réglementation à peu près dans tous les secteurs industriels pour protéger le public. C'est normal. Mais dans le domaine de l'informatique, il y a très, très peu de réglementation. Alors, je pense qu'il est temps qu'on se mette à jour.
OK. Quand vous regardez l'évolution, par exemple, des 5 dernières années, puis que vous tentez de projeter un peu sur ce qui s'en vient, est-ce que c'est une accélération, là, vraiment ultra rapide de la technologie, on n'a rien vu encore?
C'est très difficile à dire, mais ce qu'on sait, ce qui est clair, c'est que les progrès, les avancées qu'on a vues dans les derniers mois, là, avec ChatGPT et autres, n'étaient pas attendues. On pense, ça a émergé un peu de manière qu'on n'envisageait pas. Est-ce que ça veut dire que ça va encore avancer un rythme qu'on n'entrevoit pas? Ben, c'est personne n'a de boule de cristal, mais ça me dit que il faut qu'on soit plus prudent que ce qu'on a été jusqu'à présent.
Je regardais l'entrevue hier de M. Hinton qui dit que, en tout cas, une de ses craintes les plus importantes, c'est que la poussée de l'intelligence artificielle amène des pertes d'emplois, que les humains vont perdre des jobs et remplacer par la machine.
Oui, c'est quelque chose que les économistes discutent depuis des années et des années. Il y a plein d'études qui ont été faites, de scénarios, de quel genre de jobs sont plus à risque. Mais à vrai dire, il y a quand même beaucoup d'incertitudes sur comment les choses vont évoluer. Et c'est pour ça que moi, je dis aux gens, essayez de vous former pour être flexible, pour pouvoir vous adapter à des changements dans le marché de l'emploi. Pas devenir un spécialiste de une job qui pourrait disparaître dans 5 ans.
Et quand vous parlez d'intervention pour faire un cadre législatif, évidemment, il faut que ça soit à l'échelle internationale. C'est pas, disons, que l'intelligence artificielle, ça dépasse les frontières, là.
Exactement. Puis dans une situation de tension internationale comme on vit en ce moment avec la Russie, la Chine, etc., c'est d'autant plus important qu'on se coordonne. Puis ce ne sera pas facile. Mais il faut se rappeler, par exemple, que les traités internationaux sur le nucléaire, ça a été fait en pleine guerre froide. Donc, on est capable, disons, d'agir dans ce sens-là. Est-ce qu'on va réussir? Ben, il faut essayer, c'est ça.
Avez-vous eu des échos depuis votre sortie, depuis la lettre ouverte que vous avez co-signée?
Ben, je vais vous dire, quand j'ai signé cette lettre-là, vraiment, je m'attendais pas à une réponse aussi forte du public, des médias, de la communauté scientifique. Je pense que l'écho, il est là. C'est que les gens ont commencé à utiliser ChatGPT, se sont rendus compte à quel point l'intelligence artificielle avait avancé. Et c'est normal de réagir comme ça. Là. Mais je ne m'y attendais pas, parce que j'en ai signé d'autres des lettres avant. Là. Ça n'avait pas créé autant de commotion.
Monsieur Benjo, merci d'avoir pris ce temps avec nous.
Avec plaisir.
Au revoir. Joshua Benjo est fondateur et directeur scientifique de MILA, l'Institut québécois d'intelligence artificielle. Et ce monsieur Hinton, Jeffrey Hinton, c'est un Canadien de 75 ans qui a été un des précurseurs dans le domaine. Et on le surnomme d'ailleurs le parrain de l'intelligence artificielle. Et dans les entrevues qu'il a données, New York Times entre autres, il disait que c'était un travail qu'il regrettait jusqu'à un certain point, bien qu'il ait mis tous les bémols possibles. Mais que c'est important de sonner l'alarme. Il est devenu un lanceur d'alerte, si vous voulez, avec d'autres comme M. Bengio, en disant, si vous pensez que ce qu'on voit actuellement, c'est sérieux, c'est une chose, attendez ce qui s'en vient. Et là, on va pousser plus loin la technologie et de créer des fausses nouvelles, de faire de la propagande, comme disait M. Bengio, qu'on fait à la mi-temps actuellement, ou en tout cas de façon très rudimentaire, mais on va passer à une étape supérieure.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Parlons maintenant de troubles alimentaires et on sait qu'ils sont nombreux, que ce soit des gens qui souffrent d'anorexie, de boulimie. Il y en a dans tous les groupes d'âge. On va vous raconter ce matin l'histoire de Chloé qui n'avait que 7 ans. 7 ans, c'est assez incroyable, quand elle a commencé à avoir des problèmes alimentaires. Magali, sa mère, est avec nous ce matin. Magali, bonjour.
Oui, bonjour, M. Arcand.
D'abord, parlez-moi un peu de Chloé. À quel moment vous avez remarqué qu'elle avait des problèmes alimentaires?
Mais en fait, ces problèmes alimentaires sont dus principalement, en fait, à de l'anxiété. Donc, c'est pour ça que dès l'âge de 7 ans, on a commencé à voir qu'il y avait des petits détails dans son alimentation qui nous faisaient se sensibiliser à ça. Donc, elle a été prise en charge par le CLSC. Maintenant, ça, avec la pandémie, il y a eu comme un petit break, mais c'était pas très stable. Après ça, on a continué le suivi avec le CLSC. On avait l'impression que ça allait beaucoup mieux avec le retour en classe. Mais en décembre, on a vu encore des signes s'accentuer. Et puis, petit à petit, ça s'est aggravé.
Quand vous dites que c'est attribuable à l'anxiété, ça se manifestait de quelle façon? Elle ne mangeait pas du tout?
Alors, c'est vers l'âge de 9 ans que vraiment c'est devenu très grave. C'est-à-dire que son anxiété est devenue très envahissante. Et elle a... En fait, son anxiété, à la base, c'est la peur de vomir. Elle avait vomi une fois dans l'avion, puis elle avait ressenti un petit peu le dégoût de notre famille, un petit peu parce que c'était pas fantastique, disons, dans l'avion. Mmh. Puis peut-être que ça s'est comme gravé en elle. Puis après ça, l'anxiété a fait que ça a comme cristallisé, on va dire, cet événement-là en elle. Et puis, c'est passé sous silence pendant presque 2 ans, mais à l'âge de 9 ans et demi, ça a commencé à vraiment être critique. Elle commençait, à, sans qu'on s'en aperçoive d'ailleurs, à gérer son alimentation d'une drôle de façon, à limiter les quantités qu'elle mangeait, à beaucoup vérifier la qualité des produits. Elle était pourtant suivie par une psychologue pendant toute cette période-là. Et puis nous, on était très attentifs quand même. Mais quand on est parent, parfois, on a tendance à avoir le nez trop collé sur l'enfant puis pas voir comment ça se détériore vite.
Est-ce qu'elle perdait du poids? Est-ce que son état de santé se dégradait?
Alors, pendant de 7 à 9 ans et demi, pas vraiment. Ça allait quand même bien. Puis à 9 ans et demi, tranquillement, elle était de plus en plus fatiguée. Mais je pouvais pas vraiment remarquer que c'était à cause de l'alimentation parce que des fois, c'était en revenant de l'école, elle disait « Oh, je suis fatiguée ». Après ça, je dis « Ben, mangez un petit quelque chose ».« Oh non, je viens de manger ma collation ». Elle commençait à tricher un petit peu, à nous mentir, à nous dire qu'elle avait mangé des choses, mais c'était pas tellement vrai. Au souper, elle mangeait moins, de moins en moins. Ça a été très graduel, on va dire, de décembre à mars. Tellement graduel qu'on s'en apercevait pas. Jusqu'au jour où, je dirais, peut-être fin février, une personne qui travaillait à l'école m'a dit « Oh, je trouve qu'elle maigrit vite ». Puis là, ça m'a comme réveillée. Puis j'ai dit « Ben, c'est vrai qu'elle maigrit quand même vite en ce moment ». Je mettais ça un peu sur la poussée de croissance. Puis les médecins ont tendance toujours à nous dire « Ah, oh, mais non, un enfant, ça se laisse pas mourir de faim hein. ». Puis elle était gourmande quand même. Puis je voyais pas les signes très clairs, en fait. C'était pas aussi clair qu'on pense que ça l'est.
Mais est-ce que c'est vrai qu'elle elle a vraiment dépéri à un point tel qu'elle était incapable de marcher ou en tout cas avec beaucoup de difficultés?
Exactement. En fait, en l'espace de peut-être 3 semaines, elle était rendue à ne plus s'alimenter du tout, en trichant, en déplaçant la nourriture dans son assiette. Elle mangeait des petites bouchées quand on la forçait, qu'on était face à elle, elle mangeait avec difficulté. Mais on voyait qu'en l'espace de 3 semaines, elle avait plus d'énergie, jusqu'au moment où une amie très proche, en fait, quand elle l'a vue, elle m'a dit non, là c'est grave, il faut que tu consultes tout de suite.
Oui, vous êtes allé à l'hôpital de Montréal pour enfants, le Children. Comment on traite une jeune fille comme ça, puis comment on l'amène à, ou on arrive à lui réapprendre à manger finalement?
Ah, c'est un long cheminement. En tout cas, dans notre cas, ça a été un long cheminement. Pas pour la prise en charge, parce que la prise en charge a été immédiate. Elle était vraiment tellement amaigrie, tellement faible. Elle avait des problèmes de santé relativement graves. Donc, tout de suite, en fait, le Children, aux urgences, ont fait un appel pour demander à la pédiatre de la clinique des troubles alimentaires de venir faire une consultation. Et elle est venue, elle a pris 1 heure de son temps avec nous pour examiner un petit peu toute la situation familiale, puis vérifier qu'il y avait quand même un lien entre notre fille et nous. Et après ça, elle a pris la décision de laisser Eva rentrer à la maison avec nous. Puis elle a quand même réussi à mettre en place autour de notre fille tout un milieu avec du support beaucoup familial et du support pour l'enfant. Donc à ce moment-là, Chloé était prise en charge Puis elle était vraiment, c'était une prise en charge quasi quotidienne. C'est-à-dire que on avait des appels téléphoniques avec l'équipe. Il y avait des rencontres virtuelles tous les deux jours. Je devais aller à la clinique peut-être deux fois par semaine au début pour la prise de poids, vérifier aussi beaucoup les tout ce qui était médical en fait sur notre fille.
Je comprends que ça ne se change pas du jour au lendemain. C'est un long processus, c'est un long combat avec votre fille.
Absolument.
Pour l'amener à manger à nouveau correctement.
Oui, parce que Chloé, au début, elle se débattait. Elle se débattait vraiment physiquement, elle hurlait. Elle ne voulait pas, elle refusait de manger. Donc, ça a été beaucoup de patience qu'il a fallu apprendre à avoir et en même temps d'autorité. Et puis ça, c'est pas facile parce que souvent, l'un et l'autre, c'est difficile à combiner. Donc, c'est l'équipe qui nous a appris, avec la psychologue, nous a appris à être en même temps autoritaire pour la nourriture, mais d'une façon douce et calme pour mettre en confiance l'enfant.
Et puis,
mais c'est un long processus. Hein. Sincèrement, ça s'est pas fait en un mois, ça a pris presque deux ans.
Et aujourd'hui, comment elle va, Chloé?
Vraiment bien. C'est sûr qu'on est toujours en alerte. On vérifie toujours les quantités qu'elle mange, les quantités, la qualité de ce qu'elle mange aussi. Mais elle est redevenue gourmande, elle aime manger, elle a énormément d'énergie, elle a repris ses activités sportives. Vraiment, la clinique et toute l'équipe ont été d'un énorme support. Elle n'a jamais été hospitalisée, donc elle a jamais vécu ce stress d'être hospitalisée. Pourtant, elle était vraiment très amaigrie. Elle avait pratiquement la moitié du poids qu'elle a aujourd'hui. Elle a repris 25 kilos en l'espace de deux ans.
Ben, bravo et continuez votre travail auprès d'elle. Merci beaucoup. Magali, c'est la maman de Chloé. Et on a toujours peut-être en tête des cas de problèmes alimentaires à l'adolescence ou les jeunes adultes, mais à partir de l'âge de 7 ans, anxiété qui se traduit là par une lente descente, mais au point de ne plus être capable pratiquement de marcher et de perdre beaucoup de poids. Et faut souligner le travail de l'hôpital de Montréal pour enfants, le Children. D'ailleurs, la fondation qui a reçu, et ce sera annoncé plus tard aujourd'hui, là, un soutien financier de la compagnie Bell.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985FM.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Hier, je lisais dans le Journal de Montréal une nouvelle au sujet des athlètes transgenres. Et on racontait l'histoire de Valentina Cagna, qui est une personne qui est née dans un corps de garçon, mais qui a pu joindre cette année l'équipe de volleyball féminine.
Oui, c'est un débat qui fait rage aux États-Unis actuellement. T'as des États où les gouverneurs ont obligé, là, si t'es né garçon, tu vas compétitionner avec les garçons, si t'es né fille, tu vas compétitionner avec les filles. Mais c'est un débat qui fait rage et qui prend de plus en plus d'ampleur, non seulement au Canada, aux États-Unis, mais sur la scène internationale également. Là.
Pour les Olympiques, entre autres.
Entre autres, t'as des fédérations internationales comme l'athlétisme, pour l'instant, là, qui ont décidé d'étudier le dossier avant de prendre position officiellement. Là.
Puis ce qu'on comprend, c'est d'abord c'est pour le sport étudiant. Elle étudie au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Puis on comprend que la régie du sport étudiant qui fait face à une demande croissante là, des requêtes en ce sens, aimerait ça obtenir des balises. Et on va en parler avec Gustave Roel, qui est le PDG du réseau du sport étudiant du Québec. Monsieur Roel, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Première question, d'abord, est-ce que c'est vrai que vous avez de plus en plus de demandes dans ce sens-là?
Tout à fait. Je vous dirais que depuis à peu près les 4-5 dernières années, le nombre est en croissance. Et c'est à peu près présentement une quinzaine de demandes par année au niveau provincial. Mais assurément qu'il y a des demandes additionnelles qui se font au niveau régional, qui ne se rendent pas jusqu'à nous, puisque ça se règle au niveau régional.
Et là, de ce que je peux voir, c'est que c'est un peu le fouillis là-dedans. Là. Ça dépend. Chaque fédération a sa règle. Et pour apporter un changement, il faut que tu ailles à la fédération nationale, la fédération internationale. C'est assez compliqué, là.
Tout à fait, M. Crête, c'est un peu la raison pour laquelle on souhaite avoir des balises communes. Vous savez, au Québec, c'est plus de 60 fédérations sportives qui ont le mandat de régie pour lequel on respecte bien leur mandat. Sauf qu'à chaque fois qu'on a une demande, on doit valider avec cette fédération-là, qui peut être différente dans l'application d'une autre fédération. Puis on comprend qu'on peut pas avoir tout le monde pareil, là, puisque chaque discipline a ses besoins spécifiques, mais on croit qu'il peut avoir des balises communes dans l'application. Il y a le niveau de la fédération au Québec qui valide avec le Canadien, qui valide avec l'international. Et donc, comprenez que ça peut ajouter une complexité pour nous, mais également pour le participant.
Est-ce que, sur la douzaine de demandes que vous avez, par exemple, il y en a qui sont refusées?
Non, c'est-à-dire que c'est les balises qui sont données en fonction des fédérations sportives. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de refus, mais il y a des balises précises. Tantôt, M. Crête parlait de l'athlétisme. L'athlétisme, c'est tout jeune au niveau international, tout jeune qui fait le changement. Avant la puberté, c'est permis. Après la puberté, ça ne l'est pas. Alors que la Fédération de natation internationale l'a établi à 12 ans. Et d'autres fédérations n'ont aucune balise, donc tout est permis présentement. Donc, au-delà de l'accepter sur le terrain, c'est également la compréhension du milieu et la réaction du milieu. Donc, il y a beaucoup d'éducation à faire. Encore une fois, je pense que des balises communes permettraient de donner un coup de main à tout le monde. Vous savez, on est plusieurs partenaires à faire ce genre de demande-là. Des fédérations sportives, Spartaide également, qui a à gérer ce genre de demande-là également. On souhaite juste des balises communes.
Ouais. Et là, vous êtes tourné vers le gouvernement du Québec qui, pour l'instant, semble pas intéressé à s'en mêler, en tout cas, ou pas prêt à s'en mêler, là.
C'est-à-dire que nous, ce qu'on comprend dans cette démarche-là, c'est qu'effectivement, il y a une reconnaissance du rôle de régie de la fédération et qu'on accepte tout à fait. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse s'élever collectivement et faire en sorte qu'on puisse se coordonner sur des balises. Je pense que ça va aider, encore une fois, le développement des fédérations, ça va aider le réseau, ça va aider également les jeunes qui nous font ces demandes-là, mais également les spectateurs qui ont de la difficulté à suivre présentement pourquoi dans une discipline c'est permis, dans d'autres, ça ne l'est pas. Donc, ça nous donnerait un coup de main à tous.
Mais j'imagine que vous avez quand même des échos de soit de parents ou même d'étudiants qui trouvent que dans certains cas, ça peut être inéquitable. C'est-à-dire, ils ont l'impression qu'ils compétitionnent, par exemple, là, puis peu importe le sport, mais on compétitionne entre filles, arrive transgenre. Est-ce qu'il n'y a pas
natation, par exemple, c'est un bon exemple. Ça
arrive. Est-ce que ça donne des déséquilibres?
C'est sûr que dans notre recherche, il y a l'équité également qui en fait partie. Il y a l'inclusion, mais il y a l'équité. Donc, permettre à des jeunes de pouvoir participer. Certaines fédérations vont le permettre lorsque c'est pas compétitif et donc au niveau participatif. Mais comment définir le compétitif? Effectivement, il y a des réactions de toutes sortes, M. Arcan. On en a du positif, on en a du négatif également. Je pense que le milieu est prêt à faire face à cette nouvelle situation-là, puisque c'est récent, donc c'est tout nouveau. Mais est-ce qu'on peut avoir des moyens, des outils justement de concertation et de mettre encore une fois des balises communes dans la compréhension.
Parfait. Merci beaucoup, M. Roel. Bonne journée.
Merci.
Merci.
Au revoir, Gustave Roel, qui est le président directeur général du réseau du sport étudiant. Mais c'est vrai que t'es à travers le monde.
Alors, c'est un débat là, actuellement. Là. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire aux Olympiques? Puis, qu'est-ce que c'est. Au niveau international, c'est chaque fédération qui décide. Là. C'est un peu une.
Mais c'est remarque, les sports sont différents aussi.
C'est pas
on n'a pas les mêmes enjeux.
Non, mais tu sais, le football, par exemple, est-ce que tu sais une fille qui décide de changer de sexe, elle pourrait jouer dans le football universitaire québécois, là? Ça reste que t'as un enjeu, une question qu'on peut se poser. Là.
Merci, monsieur. Merci beaucoup.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
On va aborder ce matin un sujet qui est délicat, mais qui concerne beaucoup de parents. Des parents qui sont aux prises avec de jeunes adultes qui développent des problèmes de santé mentale, des problèmes qui sont amplifiés aussi par la consommation de stupéfiants, au point d'entrer dans des états de psychose, de devenir violents. Et face à ces crises, ces parents sont désarmés. Comment faire traiter son fils? qui a des problèmes visiblement, mais qui refuse de le faire. Qui va s'en occuper? Quels sont les recours devant les tribunaux? Et comment on vit comme parent quand un de nos enfants finit par nous faire peur? Il y a eu une série d'événements dans les dernières semaines à Montréal où des fils ont tué leur mère, grand-mère, et ça fait, puis père aussi, ça fait énormément réfléchir, puis beaucoup de gens partagent par courriel ces sentiments. C'est le cas de Céline Brochu, qui a un fils de 18 ans, puis qui a de sérieux problèmes, puis elle est évidemment très inquiète. Madame Brochu, bonjour.
Bonjour. Merci de prendre mon appel.
Ça me fait vraiment plaisir. Parlez-moi de votre fils un peu, si vous aviez à me le décrire, comment il était il y a quelques mois, puis comment il est maintenant?
Sportif, hyperactif, très travaillant, un garçon qui est doux, poli. Maintenant, c'est le contraire. Maintenant, c'est rendu, je dirais pas tous les jours parce que ça y arrive comme un jour sur trois, un jour sur quatre. On sait jamais, en fait, quand est-ce que ça survient, là. Mais il devient carrément comme une autre personne. Donc, impoli, agressif, avec des histoires incompréhensives, des propos qui se tiennent pas. Là, dernièrement, on a découvert que il mettait des coups de poing dans les murs des toilettes, des coups de tête dans la douche, des cris en pleine journée dans la maison pour rien. Il se fait surprendre par des choses que nous, on voit pas. C'est assez traumatisant, je dirais.
Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tout ça a basculé, selon vous? Qu'est-ce qui est arrivé?
Ben, à Noël, dans le temps des fêtes, il est allé avec des amis. Il m'a appelé le lendemain en me disant « Viens me chercher, maman, je vais me faire tuer. » Là, je comprenais rien. Je suis partie très, très vite. Je suis allée le chercher. Puis là, quand je l'ai ramassé, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond, là. Il avait pas l'air lui-même. Il regardait partout alentour de lui. Il manquait des vêtements. Là, j'ai commencé à voir qu'il y avait quelque chose de pas correct. Je lui ai demandé « Est-ce que tu as pris quelque chose? » Là, il m'avait dit que oui, il avait pris quelque chose. Il avait pris une pilule avec des amis. Donc, moi, j'ai tout de suite pensé que c'était une psychose toxique. Par contre, la psychose toxique n'est pas supposée durer plus que 30 jours. Si après 30 jours, la personne a encore des effets de ça, c'est parce qu'elle a resté, excusez-moi le terme, collée. Donc,
mais ce qui est important pour moi, c'est de bien comprendre son comportement. Vous dites, il a changé, bon, il a consommé, puis il peut devenir agressif là, comme ça, là, sans avertissement, puis éclater en l'espace de quelques secondes.
Oui, exactement. Donc, un jour, il peut se lever puis commencer à se promener avec un couteau dans la maison parce qu'il croit qu'il y a des gens qui veulent le tuer. Ça fait partie de tout ça, là. Anonymous, des propos non cohérents, là.
Puis, il peut avoir des comportements aussi obsessifs, là, prendre sa douche constamment, puis...
Oui. Il prend sa douche constamment, il se regarde dans le miroir constamment. On dirait qu'il pense qu'il est une vedette. C'est drôle à dire, là, parce que mon fils était quand même réservé, là. Là, il porte toujours le même linge, il relave toujours ses brassées de linge, mais il porte toujours le même linge. Il fait des choses qui sont pas cohérentes.
Okay.
Là, pour lui, c'est d'aller se trouver un travail. On essaie tout d'y expliquer que là, tu vas bien, tu veux te trouver un travail, mais si tu te lèves demain puis que t'es pas correct, parce que des fois, il en prend conscience, puis là, quand il en prend plus conscience, ben il est là le problème, là.
Est-ce qu'il veut se faire soigner? Est-ce qu'il est prêt à reconnaître?
Oui, pas assez longtemps. Fait qu'on y arrive pas. Fait que oui, il le reconnaît, mais il le reconnaît peu de temps.
OK. Puis ce qui est dit...
Oui, allez-y.
Non, allez-y, madame.
L'autre fois, il l'a reconnu. Et 5 minutes après, il dit « Non, j'ai pas de problème, moi, là. »
Pour le faire soigner, là, c'est compliqué, on le sait. Là, s'il veut pas, c'est un adulte maintenant, c'est...
Oh, mon Dieu, c'est l'enfer. Ouais.
Vous êtes allé chercher une ordonnance devant le tribunal.
En fait, deux. La première, c'était au mois de janvier. C'était très difficile parce qu'il faut se lever le matin, être deux personnes de la famille au minimum, se présenter dans un bureau, aller demander une ordonnance. Mais pour ça, il faut avoir des graves affaires, là. Sinon, c'est pas accepté. Donc, une fois que la dame de l'endroit a le pris la tout en écriture, puis qu'elle a monté le dossier, c'est elle qui dit si le juge va accepter ou non. Donc, là, elle prend rendez-vous avec un juge. Ensuite, on doit se présenter au palais de justice et montrer ça au juge. Donc, la première fois, ça a pris toute la journée. Et faut aussi penser que ils peuvent pas amener le jeune dans n'importe quel hôpital. Faut que ça soit dans son secteur. Faut que ça soit le palais de justice du secteur où ce que le jeune y est. Donc, si tu sais pas où est-ce qu'il est le jeune, c'est pas mal dur d'être capable de le faire. C'est comme prendre par les ambulanciers et le faire apporter à l'hôpital.
Mais ce que je remarque dans les notes que vous m'avez fait parvenir, là, vous avez obtenu l'ordonnance, mais vous n'êtes pas capable de la faire appliquer, là, c'est-à-dire que...
Respecter. Parce que, oui, c'est ça. Donc, elle a été appliquée, les policiers ont fait leur travail, ils ont été chercher, ils l'ont apporté à l'hôpital. C'était marqué qu'il était supposé voir deux psychiatres, puis ça, il était censé rester là au moins un bon deux jours parce que il rencontre un psychiatre dans le premier 24 heures et un deuxième psychiatre dans le deuxième 24 heures. Là, il est, puis en plus, dans la requête, c'était bien écrit de téléphoner la famille parce que c'est la famille qui demande la requête et que on est aux prises avec de graves problèmes, là. Donc, de pas laisser mon fils partir sans demander d'infos à la famille. 12 heures plus tard, il a été libéré. Personne nous a téléphoné.
Madame Brochu, ce que je veux bien comprendre, là. D'abord, votre fils, il vit plus avec vous, là. Est-ce que vous savez où il est?
Là, présentement, je ne sais pas où il est depuis la semaine passée, depuis qu'on a fait la dernière requête. Parce que là, il se cache, il a peur qu'on en demande une autre. Fait que là, c'est encore plus difficile parce que là, on ne sait pas il est où.
OK. L'autre chose, est-ce qu'il vous fait peur?
Quand il est correct, non. Quand il est comme ça, oui. C'est pour ça que là, j'ai été obligée de mettre un terme. Moi, je le voulais plus chez moi à partir de la première ordonnance. Là, je dormais plus, j'étais cernée, c'était difficile. J'ai beau être une mère qui adore son fils, mais à un moment donné, c'est nous qui serons malades au travers de ça, puis c'est le reste de la famille aussi, là. Grands-parents, parents, frères, c'est tout le monde là, qui est impliqué là-dedans, là.
J'ai vu des parents là qui voyaient grandir un fils un peu comme le vôtre, qui donc des parents qui vieillissaient un peu, puis des jeunes adultes qui devenaient plus imposants, puis des parents qui mettaient des barrures dans la maison, puis qui avaient peur, qui étaient pas confortables pour dormir la nuit, à tel point ils
étaient... J'étais rendu là en dernier, là. J'étais rendu là parce qu'il était capable de s'imaginer que des gens voulaient le tuer, de se promener avec des couteaux dans la maison. Un soir, là, il est devenu tellement comme agressif, là, puis il se promenait de fenêtre en fenêtre parce qu'il était sûr qu'il y avait du monde qui voulait vraiment le tuer, là. Donc, ce soir-là, on n'a pas dormi, ni moi, ni mon autre fils, là, tu sais, de voir son frère, puis moi, mon fils, se promener avec un couteau dans la maison, puis être sûr que quelqu'un veut le tuer. J'ai vu tellement de choses que la personne qui est en psychose peut prendre l'autre personne pour un robot ou un monstre ou puis pas s'en rendre compte puis faire du mal. Mon fils, je sais bien que comme il voudrait pas me faire de mal, mais quand il est comme ça, on sait pas où ce qu'il est là. Puis c'est qui est le meilleur ma meilleure place pour parler de son enfant, c'est nous le parent là.
Quel est le message le plus important que vous avez ce matin?
On n'est pas pris en considération, on n'est pas pris au sérieux. Si la drogue est mélangée à ça, c'est encore moins pris au sérieux. Ça, on me l'a dit à plusieurs reprises. C'est malheureux parce que, tu sais, mon fils, il n'y a pas un problème de drogue, il consomme à l'occasion. Puis cette fois-là, ben, ça a donné que ça s'est arrivé. Donc là, il a été un mois après ça enfermé, puis il a continué de faire des psychoses malgré qu'il n'a pas reconsommé. Donc, c'est ce qui a fait qu'on s'est ramassé encore au palais de justice la semaine passée. Avec une très bonne juge, cette fois-ci, la juge, elle nous a gardé jusqu'à 6 heures en salle de cours pour être sûre que cette fois-ci, l'ordonnance se fasse de façon complète. Elle a rajouté des choses à l'ordonnance disant que ça ne sert à rien de poser des questions à mon fils parce qu'il n'est pas tout là. Donc, de le garder comme plus qu'une journée et de vraiment aller au fond, là. 4 heures après. Là, c'est pas 12 heures, là. Là, on parle de 4 heures, monsieur, là. Il a été libéré.
Madame Brochu.
J'ai ramassé chez ma mère à 2 heures du matin à piocher dans la porte. Maman, il a fallu qu'elle rappelle la police. La police n'a pas pu l'arrêter. parce qu'il venait d'être libéré de santé mentale.
Madame Brochu, ça veut dire que vous avez beau cogner aux portes, là, vous pensez avoir une petite victoire, puis malheureusement, ça arrive
non,
pas.
Non, c'est pire. Moi, je pensais que Douglas, c'était pour être mieux, parce que c'est un institut qui est fait pour ça. Donc là, on s'est dit, la deuxième fois, on va vraiment le faire comme il faut, parce que là, on avait peur, étant donné qu'est-ce qui est arrivé la première fois. Là, j'ai essayé de trouver un avocat, et je me suis fait dire que il y a aucun avocat qui existe pour des gens comme nous.
Ben ça, c'est
pour
une autre question.
Pour faire appliquer la loi, il n'y a aucun avocat qui existe pour nous.
Ben, on va essayer de voir ce qui est possible de faire pour vous aider, mais ça demeure compliqué. C'est une situation extrêmement difficile. Pour votre fils, c'est sûr, puis pour vous, là, pour les proches qui sont autour. Merci d'avoir pris ce temps-là avec nous ce matin. Céline Brochu, dont le fils a visiblement de graves problèmes, et je suis convaincu que plusieurs d'entre vous allez vous reconnaître. Si je me fie aux nombreux courriels que je reçois, puis j'ai pas de réponse, puis il y a pas de solution, puis c'est, tu dis, OK, c'est ça la vie, là. La réalité de cette famille, c'est ça. Un fils qui fait des psychoses, qui peut devenir extrêmement violent, agressif, menaçant, peut-être que d'autres moments, il va mieux. Il disparaît, vit dans la rue, se fait arrêter, revient. À l'hôpital, on le garde couple d'heures, puis on le remet en liberté. Puis là, c'est pas de dire c'est la faute de qui, pourquoi, c'est comme ça. Puis c'est comme ça pour beaucoup de parents. Mais c'est important qu'on en tienne compte. Puis je vous le dis, là, quand on regarde les drames récents, un jeune qui tue ses parents, la grand-mère, puis la grand-mère disait « je pensais qu'elle allait mieux ». Prenait plus de drogue, supposément. Ce jeune cinéaste qui a tué sa mère, c'est pas encore toute l'histoire, mais ça fait quand même un certain nombre de cas. Alors, vous comprenez pourquoi il y a beaucoup de parents qui vivent justement dans la crainte, des parents qui se disent est-ce qu'il pourrait lui-même se faire mal, puis est-ce qu'il pourrait me faire mal, puis est-ce qu'il pourrait faire mal à d'autres personnes.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
L'Union des municipalités du Québec est en congrès à Gatineau. Le premier ministre Legault est attendu, doit faire un discours. Les villes qui demandent un pacte vert ou un pacte pour adapter les structures des municipalités, les infrastructures au changement climatique et aux effets des changements climatiques. Jusqu'ici, M. Legault est assez tiède, mais il y a quand même des réalités. Et peut-être qu'on se réveille à chaque fois qu'il y a un épisode, comme du verglas, comme des inondations, des tornades. Je fais le point avec Alain Bourque, qui est le directeur général d'Uranos. Monsieur Bourque, bonjour.
Bonjour.
Quand on regarde ces éléments ou ces phénomènes extrêmes, on le sait, on s'en est souvent parlé, ils sont nombreux, ils vont être de plus en plus nombreux. Et il y a peut-être à travers ce phénomène météo là, de El Niño des enseignements qu'on peut peut-être aussi tirer quand on veut projeter un peu pour voir ce qui s'en vient. Quand on regarde, par exemple, les températures très chaudes qu'on a connues l'été dernier, par exemple en Europe, ce qu'on voit déjà en Espagne, au Portugal, peut-être d'abord nous expliquer ce phénomène-là cette année puis quelle sorte d'effet il peut avoir.
Ouais, ben le phénomène El Niño et sa contrepartie opposée, c'est le phénomène La Niña, se produit dans le Pacifique équatorial et effectivement amène toutes sortes de bouleversements météorologiques dans beaucoup de régions du monde. Parfois, ça atteint le Québec, parfois, ça ne l'atteint pas. Là. Et donc, par le passé, dans les années 97-98, plus récemment, en 2016-2017, il y a ce phénomène El Niño-là qui s'est développé. Et là, ça amène du temps très chaud, etc., puis ça crée une variation du climat. Le point, par contre, c'est que ce phénomène-là s'ajoute à malheureusement des tendances lourdes qui sont davantage en lien avec les changements climatiques. C'est-à-dire que oui, autrement dit, El Niño peut nous apporter des enseignements, mais ce qui peut surtout nous apporter des enseignements, c'est le fait que le climat est en train de changer. Il y a des tendances lourdes et malheureusement, les événements météorologiques extrêmes vont avoir tendance à non seulement se reproduire, mais devenir de peut-être malheureusement de plus en plus intenses dans le temps.
Par exemple, si je prends l'Europe où on a vu la vague de chaleur l'été dernier, c'est pas un épisode, là, tu dis, OK, ça va s'inscrire dans l'histoire comme étant une rareté. Là. Il y a cette tendance lourde de ces événements météo plus extrêmes.
Oui, en fait, c'est comme, mais c'est davantage en lien avec les changements climatiques, avec El Niño. C'est
oui.
Avec les changements climatiques, on va voir de plus en plus d'événements météorologiques, on voit plus au sud. On va les voir davantage sur les régions comme le Québec. Donc, par exemple, si on va au centre des États-Unis, puis on regarde comment les réseaux d'égouts sont faits, comment les bâtiments sont construits pour pouvoir résister aux vents violents ou aux tornades, aux orages violents ou même à la grêle, comment les producteurs agricoles font de la production agricole, ben on constate qu'ils sont habitués avec davantage de sécheresse, avec davantage de pluie de nature un peu tropicale. Et donc, tous ces types d'événements météorologiques-là, vus plus au sud, s'en viennent vers le nord. Et c'est pour ça que j'entendais les intervenants auparavant, puis c'est intéressant parce qu'il y a même un des intervenants qui a dit « Ah, on est plus adapté ». Parce qu'on a tiré les leçons des inondations de 2017-2019, on commence à prendre des actions pour tenter de réduire les risques, pour tenter de mieux prévenir quand les événements sont sur le point de produire, ou de mieux réagir quand les événements ont lieu présentement. Alors, malheureusement, à cause de tout ça, on commence à devenir meilleur à gérer des événements météorologiques extrêmes. Alors là, le défi, c'est qu'avec les changements climatiques et avec l'addition d'un potentiel El Niño qui pourrait se produire l'hiver prochain, là, tout pointe vers le fait qu'un El Niño assez intense pourrait se produire. Bien, la combinaison de changement climatique et d'El Niño fait en sorte qu'on devrait peut-être déjà commencer à se préparer pour voir des événements météorologiques encore plus extrêmes au cours des prochains mois et des prochaines années.
Monsieur Bourque, je veux vous entendre sur ce que ça veut dire concrètement se préparer.
Bon, alors ça, c'est une bonne question parce que la plupart des gens croient que se préparer, c'est-à-dire de mettre des équipes d'intervention plus prêtes à intervenir sur le terrain lorsque l'événement est sur le point de produire. Et ça, effectivement, il faut le faire. Mais la vraie préparation pour pouvoir tenter de réduire les impacts, c'est de repenser l'aménagement du territoire. C'est de mettre en place, comme le gouvernement du Québec a fait, par exemple, de mettre en place des programmes qui permettront à des gens de, malheureusement, se relocaliser pour pouvoir ne pas être impacté par les événements météorologiques. Un des meilleurs exemples qu'il y a, c'est le long des zones côtières au Québec. Le niveau de la mer augmente à cause des changements climatiques et il ne va pas malheureusement rebaisser. Donc, l'érosion côtière, les inondations côtières vont augmenter. On aura beau vouloir se battre contre l'océan, l'océan va finir par gagner. Ça va coûter une fortune si on construit des murs toujours plus hauts suite à chaque événement météorologique extrême. Donc, la vraie préparation, là, c'est de vraiment anticiper plusieurs années d'avance, revoir l'aménagement du territoire, redimensionner nos infrastructures. On l'a vu là, dans certaines images au cours des derniers jours. On a vraiment l'impression que les ponts, par exemple, ne sont pas assez larges, ne sont pas assez gros pour pouvoir faire face aux pluies qui se produisent de plus en plus. Donc, il va falloir, au fur et à mesure qu'on renouvelle nos infrastructures, il va falloir rebâtir de façon plus solide, de façon à pouvoir anticiper davantage les grands coups d'eau. Et ça, c'est la réelle préparation. C'est une prévention qui se fait longtemps avant les événements, au travers du développement économique, du développement des infrastructures, de l'aménagement du territoire.
Merci beaucoup, M. Bourque, toujours très éclairant. Alain Bourque est le directeur général d'Ouranos.
Vous écoutez Balado du dimanche, une présentation de C23. Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à l'Essentiel de Paul Arcan sur Apple Balado, Spotify ou Google. Un nouvel épisode tous les jours en semaine vers midi. Après la pause, ça tient la route avec Benoît Charrette.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.